Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode encore très chargé puisqu'on va parler du top 12. On reçoit Julien Fuchs de l'ASPTT Strasbourg. Son équipe s'est inclinée 5-3 contre Arras lors de la troisième journée. On va parler de cette rencontre, mais aussi de son début de saison, du format du top 12 ou encore du profil de ses nouvelles recrues. Et ensuite, on se penchera sur les autres rencontres de cette troisième journée de top 12 et enfin sur le ILO Open en Allemagne où les Français nous ont vraiment régalé avec notamment trois demi-finales. C'est dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle Badminton at its very, very best. Et on reçoit donc Julien Fuchs de l'ASPTT Strasbourg. Salut Julien, merci beaucoup d'être là.
Merci pour l'invitation.
Et puis je suis évidemment comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît.
Salut Ewan, salut Julien.
Salut.
Alors, notre première question, c'est un truc un peu général, même si pour ceux qui se rappellent, tu étais déjà venu dans un épisode chez 21 Shuttle. Je crois que c'est toujours un de nos plus écoutés. Mais Julien, est-ce que tu peux un peu te présenter et notamment un peu détailler ton rôle au sein de l'ASPTT Strasbourg ?
Au sein de l'ASPTT Strasbourg, ça fait à peu près 25 ans que je suis licencié. J'étais joueur, puis... entraîneur, et actuellement je suis responsable du haut niveau au sein du club et capitaine de l'équipe de top 12.
D'accord, donc qu'est-ce que ça veut dire responsable du haut niveau ? Ça veut dire que tu entraînes, tu es responsable peut-être d'une académie ? Comment ça se passe ?
Au sein du comité.
Ah oui, d'accord.
C'est mon rôle. Après, on a trois équipes en national et une équipe en pré-national. Je coordonne un peu les quatre équipes.
On peut peut-être tout de suite commencer avec un petit retour, un petit flashback sur les saisons de Strasbourg. Quel bilan tu tires des saisons de la saison précédente et des saisons d'avant en top 12 ?
Après nous, en fait, je crois qu'on est le plus ancien club avec Aix-en-Provence à être en top 12. Ça doit faire depuis qu'on est monté en 1997, il me semble. Ça fait à peu près 25 ans qu'on est en top 12. On a fait à peu près une douzaine de playoffs avec le titre de champion de France en 2013, juste avant Chambly, qui rafle tout depuis 10 ans. Donc sur les dernières saisons, on est arrivé dans les 5 dernières années, on a participé à 2 playoffs. Une fois, on a terminé 3e. Il y a 2 ans, on a terminé 2e. L'année dernière, on a échoué aux portes des playoffs au point à virage. Donc l'objectif de cette année était toujours d'accéder aux playoffs. Après, pour l'instant, on est plutôt mal parti. Notre plus mauvais début de saison depuis 25 ans. Donc il va falloir se ressaisir.
Ouais, bah justement, on avait des questions sur ce début de saison. Vous êtes à 2 défaites et un match nul. Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est lié à des absences ? Est-ce qu'il y a autre chose ?
Oui, déjà, on a nos deux meilleurs joueurs français, que ce soit Alex Lagny en simple homme et William Vilger en double homme, qui ont été absents les trois premières journées. William, il est absent, enfin, il est blessé depuis 6 mois. Là, il s'est fait récemment opérer du... poignet, donc il a enlevé son attelle la semaine dernière, donc il sera pas de retour avant au minimum, je pense, début 2024. Et Alex était blessé en début de saison, ensuite la dernière journée était au championnat du monde, là il s'est brillamment qualifié la semaine dernière pour les demi-finales à l'Open de Sarrebruck, donc c'est vrai qu'ils étaient absents sur les trois premières journées. Ensuite, c'est vrai que cette saison avec la qualif olympique, c'est aussi, comme souvent, c'est un peu une année... C'est un peu la loterie selon les adversaires que l'on joue. Ce week-end, on a perdu contre Arras, qui était pour la première fois de la saison au complet. Les deux premières journées, ils avaient vraiment un effectif réduit. Et donc là, ils nous ont logiquement battu samedi dernier.
On a vu quelques-unes de vos recrues depuis le début de la saison. Je pense à Daniil Dubovenko, Anastasia Shapovalova, que vous avez recruté, Lilou Schaffner, Linda Effler. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, nous les présenter brièvement pour ceux qui ne les auraient pas vu jouer sur les trois premières journées?
Donc Daniil Dubovenko, en fait, c'était l'adversaire de Alex Lanier sur les catégories jeunes. Donc, on avait repéré notamment sur les championnats d'Europe cadets où il avait perdu contre Alex en quart sur un match très très serré. Mmh. Donc après, c'est vrai que les années suivantes avec les problèmes avec la Russie, et il pouvait plus participer au tournoi. Et en fait, comme il avait le double passeport russe et israélien, il a décidé de jouer pour Israël depuis cette année. Donc après, comme on a également une joueuse russe dans l'équipe, ça facilitait les contacts avec la famille. Donc il a décidé de venir jouer à la SPTT cette année. Il faut savoir que c'est un joueur encore très jeune, hein, il vient juste d'avoir 18 ans. Je pense que il a un avenir bien prometteur. Et là, sur la première journée, il avait vraiment été impressionnant, étant à deux doigts de battre Vitingus. Là, samedi, sur la première journée à domicile, je pense qu'il s'est mis pas mal de pression. Et en face, il y avait un Toby Penty qui était vraiment en état de grâce. Comme lors des playoffs, un peu. Voilà. Et sinon, concernant les autres joueurs, Lilou Schaffner, c'est une jeune joueuse régionale qui...
Ouais.
Il jouait à Mulhouse la saison dernière, qui a décidé de venir renforcer essentiellement notre équipe 2, qui est remplaçante sur le top 12. C'est une joueuse de double dame et de double mix qui avait remporté deux médailles au championnat de France junior cette année, en double mixte et en double dame. Et ensuite, concernant Anastasia Alimova maintenant.
Oui.
Je pense que ça va être compliqué. Elle va pas venir souvent, voire pas du tout, parce que c'est très compliqué de venir de Russie actuellement.
Ouais, c'est la question qu'on a posée aux autres capitaines qui savaient pas plus que toi et qui étaient assez pessimistes sur le fait de pouvoir avoir les joueurs russes cette année.
Oui, après on a dans notre effectif, on a Victoria Vorbeva, mais pareil, qui a un double passeport et qui est Bélarusse également, et c'est plus simple. Elle voyage souvent en provenance du Bélarus.
Sachant que les Russes ne rejouent pas encore sur le circuit en plus, même si ça devrait pas tarder a priori.
Non, je crois que ça va être très compliqué. En fait, de ce que j'ai entendu, c'est qu'ils pourront éventuellement jouer sous la bannière neutre.
Oui.
Et que la fédération russe... S'ils jouent sous la bannière neutre, ils soutiendront pas financièrement. Mmh. Ils pourront plus jouer sur le sol russe. Donc c'est...
Oui, oui, ok.
Compliqué, oui.
D'accord.
Pour la dernière recrue, Linda Effler, bon, elle est... Pareil, elle, c'était plutôt en vue de l'année prochaine. Cette année, elle s'était pas engagée à jouer énormément de journées parce qu'elle est encore sur la qualif olympique. La priorité, c'est la qualif olympique.
Ok, c'est intéressant que vous recrutiez déjà pour, dans l'optique dans deux saisons presque. Ok.
Moi, après, elle habite à une heure de Strasbourg, donc c'est vrai que on l'a approchée cet été, mais voilà, elle a dit, elle s'engage sur 2-3 journées et puis éventuellement plus la saison prochaine.
Et donc, tu l'as dit, avec cette saison de qualif olympique, c'est un peu particulier pour tout le monde. Toi, après ce début de saison, comment tu vois un peu le reste de la saison? Puisque là, tu dis qu'il y a certains joueurs qui vont continuer à ne pas être là, pas beaucoup, pas du tout. Est-ce que tu penses que vous allez jouer le maintien? Est-ce que tu penses que ça va aller mieux et vous allez pouvoir rentrer dans la course au play-off? Ou alors un peu entre les deux? Comment tu vois le reste de la saison?
Après, on ne sait pas. C'est vrai que dans un premier temps, on va essayer d'assurer le maintien. Après, la prochaine journée, on joue Paris qui est deuxième. C'est vrai que si on les bat, on revient plus qu'à 1.2. Donc après, c'est vraiment... On verra match par match. C'est vraiment compliqué à dire avec cette qualif olympique. Et ça dépend des joueurs. Parce qu'il y en a certains qui vont... S'ils ne seront plus en mesure de se qualifier, ils vont arrêter de faire la qualif. Ils seront toujours plus disponibles. Et puis s'ils jouent très bien, ils seront moins présents. Donc c'est... Ça dépend des résultats un peu des prochains mois.
William Villéger, c'est un peu un cas à part, mais du coup, avec ce que tu as dit, on peut imaginer que la qualif olympique, bah, malheureusement, c'est quasi terminé. Est-ce que du coup, c'est un joueur sur la deuxième...
William ?
Oui, j'ai dit quoi, pardon ?
Oui, oui, non, mais oui, la qualif, elle est terminée depuis sa blessure à Orléans en mars.
Ouais, c'est toujours dur de statuer et de dire que c'est fini, mais oui, c'est...
Non, mais il s'est fait opérer début septembre. Déjà, il y a eu, ils espéraient ne pas l'opérer, donc il a attendu 3 mois. Ensuite, il a encore attendu 3 mois. Ils ont décidé de l'opérer au bout de 6 mois parce que ça n'allait pas mieux. Et donc là, comme dit, opération début septembre, c'est au mieux reprise au début de l'année, mais sans avoir joué pendant 9 mois. Donc,
Ça peut peut-être lui donner du temps pour jouer avec vous aussi en top 12, même si ça peut être compliqué au début, mais du coup, il sera peut-être plus dispo aussi.
Oui, mais je pense pareil. Au niveau de son état de forme, ce sera pas pour début 2024.
Nous, on se demandait un peu pour William Villéger. Là, on s'éloigne peut-être un peu du top 12, mais avec les blessures qu'il a à répétition et en plus, le poignet pour un joueur de bad, forcément, c'est important. Est-ce que tu penses qu'il pourra retrouver un très bon niveau ou que maintenant il va avoir du mal et qu'il risque peut-être d'enchaîner des blessures comme ça?
Non, après, il y a des exemples comme, il y a Carolina Marin qui s'est fait opérer 2 fois des ligaments croisés qui arrive à regagner des super 1000. Après, William est encore jeune, c'est sa première vraie blessure. À lui d'être sérieux au niveau de sa rééducation et je pense qu'il aura le temps de revenir à haut niveau. Après, c'est pas évident de gérer une première blessure.
Tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, mais sans faire de plan sur la saison, est-ce que c'était une grosse déception cette défaite contre Arras ou avec l'effectif avec lequel vous êtes venu, vous imaginiez que ça pouvait être très compliqué?
Après, c'est vrai que avant Sarrebruck, on espérait éventuellement que Alex Lamy soit présent. Après, avec les forces en présence ce samedi, on espérait. Il faudrait qu'on espère ramener au minimum 2 simples.
D'accord.
Pour les 4. Voilà, on a voire en ramener 3. Et au final, on n'en a ramené qu'un. Donc, comme dit, sur le match du Bobenko contre Penty nous semblait être équilibré avant la rencontre. Après, comme dit, Toby a vraiment très très bien joué. Et après, le simple dame 2 était accroché. Il y a eu 3-7. En plus, Chloé Birch avait eu le double dame avant, donc elle était un peu entamée. Mais bon, c'est une fille qui a beaucoup d'expérience. Et qui a bien manœuvré et qui a remporté son match.
Du coup, tu nous as dit, Alex Lanier, forcément, lui, joue de plus en plus de tournois. Et en plus, là, comme on l'a vu en Allemagne, et comme nous, on va en parler tout à l'heure dans le podcast, il fait des perfs de mieux en mieux. Et du coup, il a forcément de moins en moins de chances d'être là pour vous. Est-ce que tu vois le simple homme chez vous un peu léger ou tu penses que par exemple Dubovenko il va pouvoir en gagner plus que ce qu'on a vu là et que là son niveau là était pas très représentatif?
Oui, après Dubovenko, si vous regardez son résultat tout au long de la saison, il a participé à 9 tournois, je crois qu'il a fait 6 finales, donc il a déjà battu plusieurs joueurs du top 70-60. C'est un bon joueur qui va progresser parce que, comme dit, il a que 18 ans. Et après, on espère encore qu'Alex vienne nous renforcer sur quelques journées. Donc, c'est sûr, si on a Alex et Dubovenko, je pense qu'on a vraiment un très bon effectif en simple homme. Après, s'il y a 1 ou 2 absences, c'est évidemment plus compliqué.
Bon, peut-être, mais c'est vrai que il n'est pas forcément connu, peut-être Daniil Dubovenko de nom en tout cas, mais il commence quand même à bien arriver sur le circuit, donc c'est vraiment un joueur en top 12 qui peut clairement faire du bien.
Oh, la dernière journée, il mène 13-6 au 3ème contre Vitingus.
Ouais.
Donc oui, je pense que. Non, il a déjà battu des top 60, il a remporté l'Open de Croatie il y a un mois, c'est un bon joueur.
Non, j'ai une petite question aussi sur l'ambiance à Strasbourg. C'est comment l'ambiance à domicile? Est-ce que vous remplissez la salle? Est-ce que ça se passe comment? Parce qu'on pose la question parce qu'on sait que c'est un problème pour de plus en plus d'équipes de top 12, la baisse de fréquentation.
Après, tout est lié déjà à l'affiche. Et parfois, quand y a des joueurs qui sont plus attractifs que d'autres. Que quand il y a un grand joueur Mulhouse, quand il y a le derby, quand il y a Tom Jiquel, Arnaud Merclé contre Lagné, Bilgé, ça remplit la salle. Quand les frères Popov viennent, ça remplit souvent la salle. Après, sur la dernière journée, on avait un club local, le club de Soufflenheim, qui est venu avec 50 licenciés de leur club. Donc forcément, ça aide à remplir la salle. Après, sur la prochaine journée, on a un club lorrain qui se déplace à plus de 30 personnes. Donc ça aide un peu. Mais c'est vrai que comparé à, je veux dire, une dizaine d'années, je pense qu'il y a un peu moins d'affluence. Il y a des années où régulièrement, on faisait, on va dire, on a fait 300 personnes. Moi, après, notamment quand il y avait Pyongyang contre Sachina, ou il y avait Chambly qui venaient chez nous. C'est vrai qu'actuellement, ça... une baisse d'affluence un peu, je constate au sein du championnat.
Oui, si on te demandait, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a constaté avec pas mal de capitaines. Tu penses que c'est général ou c'est vrai? T'as parlé du fait que ce soit lié aux affiches, mais est-ce qu'il n'y a que ça ou...
Non, après, il y a des nouveaux clubs. Hein, qui... Cholet qui a...
Ouais.
Qui est arrivé il y a quelques saisons où il y a une très bonne ambiance. Il y a Rostrenen ou des quoi là. Je sais pas, c'est des nouveaux, les derniers arrivés, ouais, qui sont moins essoufflés peut-être.
C'est dur de fidéliser peut-être sur... vous, en plus, vous êtes là depuis tellement longtemps que c'est peut-être dur de fidéliser sur 15-20 ans, même 10 ans, sans aller aussi loin.
Ouais, c'est vrai que nous, localement, ils peuvent aller voir du haut niveau au Swiss Open à 1h, à Saarbrück à 1h, à Paris, à une TGV. Donc ils ont l'occasion déjà de voir du très très haut niveau. Et après, il y a aussi, je pense, le problème, c'est que nous, localement, il y a une dizaine de clubs qui jouent en même temps en N2 et N3. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, tous ces clubs-là n'étaient pas en national. Donc ils enlèvent des passionnés.
La dernière fois que tu étais venu dans le podcast, on avait beaucoup parlé changement de format du top 12. Là, on a cru que ça allait se faire, puis finalement non, puis finalement peut-être la saison prochaine, puis finalement on ne sait pas. Où est-ce que ça en est? Est-ce que c'est toujours à l'étude un changement de format? Et est-ce que toi, tu as toujours le même avis là-dessus, c'est-à-dire que celui qui est actuel n'est pas doit changer?
Après, comme dit, au début de l'Olympiade, je faisais partie d'un groupe de travail qui était chargé de faire des propositions pour changer un peu la formule actuelle. Et qu'au bout d'un an, apparemment, nos travaux n'étaient pas satisfaisants. Donc, il y a une autre commission qui a pris la suite. Puis, et ensuite, Franck Laurent, qui était responsable encore une nouvelle commission. Et finalement, il s'avère qu'au bout de 3 ans, il n'y a toujours aucun changement qui a été effectué. Après, de mon avis, pour moi, la priorité, c'est vraiment le calendrier. Je pense que si vraiment on se mettait tous autour d'une table, les entraîneurs de l'INSEP, les joueurs, les capitaines, je pense qu'on pourrait faire vraiment mieux. Parce qu'il y a des périodes parfois creuses de 1 ou 2 semaines où il n'y a pas de tournoi. Là, sur cette saison, j'ai du mal à comprendre certaines dates. Donc, je pense que c'est vraiment ça la priorité. Trouver un calendrier qui contente un peu toutes les parties.
Et donc pour toi, ça vient d'un problème de communication entre les différents capitaines et la Fédé?
Je pense que quand il y avait eu le communiqué, en début d'année, on reprochait déjà un peu un manque de com, et je pense que c'est toujours le cas. Il est évident que la DTN a d'autres objectifs, que les joueurs de la DTN, voilà, leur priorité, c'est le classement mondial, de ramener des médailles internationales. Et je pense qu'il faut trouver une juste balance et qu'il y a moyen de travailler ensemble. Et oui, la communication, je pense que il n'y en a pas assez. De toute façon, là, sur les derniers mois, je pense que la fédération avait d'autres... Autre problème, et que le top 12 n'était pas la priorité ces 6 derniers mois.
Mmh. Il y a un autre sujet, je crois pas qu'on l'ait posé encore comme question, et je trouvais intéressant, on trouvait intéressant de te la poser avec Ewan. Ben moi, j'ai vu d'un œil assez, je dirais, surpris l'ouverture du top 12 pour les joueurs, enfin en fait pour les joueurs du top 12, sur le fait qu'ils puissent aller jouer dans plus de championnats. Moi, j'avoue que ça m'a posé la question de savoir à quel point ça pouvait mettre le top 12 en danger, qui était déjà, d'un point de vue calendrier, assez difficile. Est-ce que, enfin, toi, c'est quoi ton avis sur cette ouverture?
Après, les championnats, ils se déroulent pas en même temps. Il y a le championnat polonais, c'est le lundi soir. Le Danemark, c'est le lundi soir. Il y a le championnat suisse, parfois, c'est le dimanche.
Ça multiplie quand même.
Ça multiplie. Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'un top joueur mondial, il peut pas se permettre de jouer dans plusieurs championnats par rapport à la récupération. Après, un joueur qui est en fin de carrière, je comprends qu'il a envie de faire, on va dire, un peu d'argent. Donc là, il peut se permettre d'aller jouer dans plusieurs championnats. Mais oui, c'est essentiellement le principal problème, c'est la gestion. Ouais, les joueurs, leur gestion du calendrier, faire attention aux blessures, récupérer au mieux. Mais c'est sûr que le problème, c'est que le joueur de badminton, en général, il gagne pas assez d'argent. Donc c'est pour ça qu'il va jouer dans plusieurs clubs.
Ouais, il y en a plein qui vont.
Oui, on peut. Ouais. Non, je disais, on peut pas vraiment en vouloir aux joueurs, du coup, c'est logique.
Oui, oui.
Non, mais dans certains pays, notamment la Suisse, je crois, il me semble que c'est très bien rémunéré. Donc c'est vrai que aller jouer parfois juste un samedi dans un championnat, les joueurs gagnent plus que participer à un Open. Mais ça leur permet de financer les prochains tournois.
Ouais, c'était
et
plus.
Une dernière question sur la prochaine journée. Tu l'as dit, elle est assez importante contre la réception du RCF, parce que si vous gagnez, vous pouvez revenir carrément dans la course au play-off. Comment tu vois ton équipe? Est-ce que tu sais déjà si tu auras une majorité de joueurs présents?
On sait plus ou moins. Il y a déjà les listes des prochains tournois. J'ai vu qu'il y a un tournoi en Chine, donc il y a les tout meilleurs joueurs qui sont inscrits. Nous, pas forcément au complet. Je sais qu'il y a Alex Lanier qui va partir sur une tournée en Inde après. Est-ce qu'il viendra jouer juste avant ou pas? Après, le club s'est entretenu normalement, notamment la semaine dernière avec Thierry Solaire de la fédération pour discuter des venues ou pas d'Alex et d'essayer de trouver un compromis pour satisfaire tout le monde.
Très bien. Benoît, tu as quelque chose à rajouter?
Eh ben, on peut peut-être te laisser le mot de la fin, Julien. Je sais pas s'il y a un truc que tu as envie de dire ou.
Non, je tenais à vous féliciter pour le travail que vous effectuez chaque semaine et bravo pour la passion que vous avez envers notre sport et bonne continuation.
Ben, merci beaucoup d'être venu. Nous, en plus, ça nous fait plaisir de recevoir les capitaines du top 12. Toujours plus intéressant d'en parler en direct. Donc, merci à toi, Julien. Et puis, bonne saison à Strasbourg.
Merci. On vous attend à Strasbourg.
Oui, c'est vrai.
Ça tombe pas dans l'oreille de source. Hein.
C'est vrai. Et puis même, si vous nous écoutez, allez voir des rencontres à Strasbourg si vous êtes de là-bas ou pas trop loin, notamment les prochaines réceptions. Donc la réception du RCF, celle dont je parlais le 25 novembre. Et puis après, ce sera en 2024, le 10 février, réception de Chambly. Et le 20 avril, réception de Maromme. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a des très très bons joueurs dans cette équipe.
Aimez-vous le badminton?
Ah non.
Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Et nous, on va donc se concentrer sur les autres rencontres. On va rester dans cette même poule avec le match entre la rencontre entre Chambly et le RCF. Large victoire de Chambly, 7-1. Au niveau des recrues, donc on avait Vitingus qui était là côté Chambly. Il a gagné son simple homme contre Valentin Singer. Côté RCF, on avait en recrue Arthur Vakevich qui a perdu contre Thomas Rouxel. Thomas Rouxel qui faisait sa première sa pre, sa, sa sa première apparition de la saison. Il jouait simple homme 2. Paulina Borova a gagné le seul match du RCF en simple dame 1 contre Léonie Sué. Et par contre, elle a perdu avec Vimala Aéreo contre Béatrice Corrales et Lauren Smith. Donc voilà, Ellie Smith était là pour Chambly lors de Delphine Delerue n'était pas là, Fabien lui était bien présent. Nela Nyquist, la jeune finlandaise, et ça je sais que ça va faire plaisir à Benoît, a gagné son simple dame 2 24-22 au troisième contre Abigail Louise Holden. Benoît, tu veux en dire un mot ou pas?
Je sais pas si c'est un premier signe de confiance parce qu'elle avait déjà joué, mais j'ai envie de dire dans une rencontre en tout cas assez importante, parce que c'est quand même le début de saison, t'as encore des trucs à jouer, c'est cool qu'on lui donne des matchs. Et moi je pensais l'avoir sur des tournois genre en Hongrie cette semaine, mais c'est cool que Chambly commence à vraiment l'intégrer dans son équipe de top 12. C'est pas par la petite porte, mais je trouve que c'est bien qu'elle démarre pas sur des simples dames 1 ou des gros matchs, donc c'est assez parfait et le scénario va l'aider.
Alors que Béatrice Corrales était présente en plus, donc tu aurais peut-être pu essayer de la faire jouer aussi, donc je suis d'accord avec toi.
Il y a une volonté assez claire, je pense, de la faire jouer, du coup.
Et sur le reste de la rencontre, un mot ou pas?
Tu te passes de ta meilleure joueuse, très clairement, qui était en Allemagne, voilà. On en parlera plus tard.
En l'occurrence, Anne Tran, qui n'était pas présente, et ça change le visage de cette équipe. Jendira Stadelmann absente aussi, ça fait
c'était
beaucoup.
Je pense que le RCF a aussi fait une croix en se disant qu'il n'y avait pas Anne Tran. Tu fais assez logiquement pas venir Jendira Stadelmann, bon.
Oui, de toute façon, quand tu vas à Chambly, bon, c'est peut-être pas la pire rencontre pour être absent parce que tu sais que ça va être compliqué de toute façon.
Oui.
Et dans la dernière rencontre de cette poule, rencontre beaucoup plus serrée, 4 partout entre Marom et Cholet. Marom qui avait perdu ses deux rencontres, tandis que Cholet était à une victoire et un nul. Donc Cholet toujours invaincu. Alors, dans les recrues surtout, on a eu Marc Caliou, côté Cholet, qui a battu Fabio Capogno en simple homme 1. Mais le simple homme 2 a été gagné par Daniel Nikoloff pour Marom contre Martin Oisan, 21-15-21-12. Shuei a facilement gagné son match. L'autre recrue, Priscilla Siaya, côté Cholet, a gagné son simple dame 2 mais a perdu en double dame 1. Donc en fait, Marom a pris qu'un seul des simples, en l'occurrence le simple homme 2, mais a pris 3 doubles grâce notamment à 2 victoires de Julien Maillot avec 2 Italiens, le double homme avec Fabio Capogno contre les frères Corvée assez facilement en plus, 11 et 16, et le mixte 1 avec Martina Corsini contre Renaud Arnoux et Shuei, 10 et 11. Et du coup, le seul double remporté par Cholet, c'est le mixte 2, Elias Brack et Gaël Mahulette, qui ont battu Daniel Nikoloff et Chloé Delattre. Benoît, bonne performance de Marom, de prendre un peu ses premiers... pas ses premiers points, parce que tu as des points en cas de défaite, oui, mais là, oui. De ne pas concéder une nouvelle défaite face à une équipe de Cholet où il manquait un peu de monde, notamment dans le secteur féminin, mais où tu avais quand même Marc Caliou. Voilà, qu'est-ce que tu en penses?
J'en pense que finalement, c'est presque pas un si mauvais résultat pour Cholet. J'ai du mal à voir des matchs où il pouvait faire mieux.
Aucun match en 3-7 hein, sur toute la rencontre, c'est notable quand même.
Voilà, avec l'effectif présent, je parle. Donc, c'est un bon point pour Marom. Un bon point, c'est un bon match nul pour Marom. Tu casses la série de défaites, tu te relances un petit peu pour le maintien. Enfin, je pense que toi, comme moi, on n'y croyait pas de ouf. Après 3 journées, tu commences quand même à te poser des questions. Non, en vrai, c'est Marom fait la bonne affaire.
Exactement, puisque point classement tout de suite. Marom, je vais le faire par le bas. Marom, qui est désormais à 5 points, qui revient donc à 1 point de Strasbourg, 6 points, puisque les deux équipes ont le même bilan. Un match nul et 2 défaites. Encore 1 point devant, il y a Arras avec 7, qui donc se donne un tout petit peu d'air avec sa victoire. Et après, en fait, il y a déjà 2 groupes, puisque même si on a après Cholet à 11, le RCF à 12, et après il y a finalement un troisième groupe avec Chambly qui est tout seul à 16 devant. Benoît, est-ce que rapidement tu vois se dessiner une saison où le RCF et Cholet sont à la lutte pour la deuxième place en play-off et où les 3 du bas luttent pour pas descendre?
Ouais, bah en tout cas là à l'instant T c'est ce qui semble se profiler. En fait j'ai du mal à croire Strasbourg parce que William Villéger va revenir, Alex Lanier va venir gagner des matchs. C'est pareil qu'à Lumeming quand il est là avec William Villéger. J'arrive pas à imaginer que Strasbourg soit dans ce train de la descente quoi. Mais après
c'est marrant parce que moi Benoît j'ai un peu...
Ouais, pardon,
j'ai un peu la même sensation pour Arras et c'est pour ça que j'ai du mal à croire que Marom puisse lutter longtemps contre le maintien, même si je suis content pour eux qu'ils arrivent à choper ce match nul, mais tu vois ce que je veux dire sur la durée, j'ai du mal à le croire quand même.
Ouais, je vois plus Arras. En fait, je vois Arras quand même un peu moins fort que Strasbourg. C'est ça qui me fait penser que ça pourrait être Arras. Mais oui, sur la durée, je vois quand même les deux un peu au-dessus. Mais enfin, là, ça, déjà pour les playoffs, t'as pris un retard considérable en tout cas.
Oui, bon, les playoffs, ouais, je pense que ça va être compliqué.
Bah, puis Chambly, là, ouais, c'est ça.
Chambly, sans surprise, un peu intouchable dans cette poule. On va aller là où c'est un petit peu plus serré, dans la poule 2. On va commencer par la rencontre la plus serrée, puisqu'elle a été les deux équipes ne se sont pas départagées. C'est le 4 partout entre Aire-sur-la-Lys et Aix-en-Provence. Alors, on a eu plus de matchs serrés pour le coup. Là, il y a eu 3 matchs en 3-7. Le plus serré, c'est le mixte 2. Lane et Vendy étaient là. Et Sean Vendy a joué avec Flavie Vallée et ils ont battu Grégoire Deschamps et Juliette Moinard 21-19 au 3ème. 17-21, 22-20, 21-19. L'autre mixte a été serré avec Ben Lane. Il a joué avec Chiara Torrens. Ils ont perdu contre Ronan Labarre et Alina Davletova. 22-20, 13-21, 21-18. Donc deux mixtes assez serrés qui tournent un pour chaque équipe. Le troisième match en 3-7, c'est le double dame qui a tourné également pour l'équipe aixoise. La paire Akshurina Davletova qui bat Torrens Vallée. Lane et Vendy ont gagné leur double homme contre Barbieri Labarre plutôt facilement. Donc deux doubles de chaque côté et également deux simples. Côté Aire-sur-la-Lys, on a Julien Caragui très en forme en ce moment qui a facilement battu Johan Barbieri pendant que son coéquipier Louis Ducrot perdait contre Grégoire Deschamps. Et les simples dames, Romain Clotofoucault a battu Katerina Tomalova, tandis que Yael Oyo côté Aire-sur-la-Lys a perdu contre Anastasia Akshurina. Voilà le bilan, Benoît, finalement assez logique, même si on a quand même l'habitude de voir Lane et Vendy gagner tous les matchs dans lesquels ils sont engagés. Là, ça n'a pas été le cas pour Ben Lane.
Ça n'a pas été le cas pour Ben Lane. Après, voilà, à remettre en perspective, ils ont quand même joué tous les deux en Allemagne. Ouais. Et avec un niveau intéressant, c'est là aussi que c'est un peu plus surprenant. Ce partage des points à effectif complet, là, comme ça, ou quasi complet, plutôt logique. Et c'était peut-être, pour moi, la plus belle rencontre des deux poules, en tout cas en termes d'opposition. Les deux joueurs présents, pardon, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Franchement, il y avait du beau monde de chaque côté. Alors, toutes les équipes n'étaient quand même pas au complet, même si côté Roy, il y avait quand même quasiment toute l'équipe. Côté Aix-en-Provence, il manquait quelques joueurs, notamment Toft et Sosonov. Je pense que ça change beaucoup. Mais franchement, c'était Eliane Tan aussi. Mais c'était une belle rencontre. Alors, on va passer sur la victoire 6-2 de Mulhouse à Talence, et notamment pour Mulhouse, la deuxième rencontre de Mia Blichfeldt. Elle a gagné son simple dame contre Carla Martinez, 21-14, 21-12, tandis que l'autre recrue du simple dame, Sabrina Olia Yasmine, elle a perdu à pas grand chose contre Floriane Nurit, 21-18, 12-21, 20-22. Pour le reste, on avait quand même du beau monde côté Mulhouse, hein, avec Arnaud Merclé qui a facilement battu Lucas Clairboud. Les deux avaient joué pas mal cette semaine et ces derniers temps. Tom Jiquel était présent. Il a joué avec Merclé justement en double homme. Ils ont battu Clairboud Renoir et avec Camille Pognante contre Lucas Renoir et Esten Von Nouwen en mixte. Et à part Florian Nurit, du coup, le deuxième point de Talence, c'est Carla Martinez et Estelle Van Leeuwen qui l'ont gagné en double dame contre la paire Yasmine Pognante. Benoît, qu'est-ce que tu retires de ce que je viens de dire?
Alors, une chose principale, pour moi, c'est peut-être la victoire la plus... pas constructive, je cherche mon mémo, mais la plus... symbolique de Mulhouse depuis le début de la saison.
Ok.
Alors, face à un talent, c'est pas au complet de ouf, mais Mulhouse quasi. Pour moi, c'est le Mulhouse qu'on a envie de voir là, vraiment. Et ouais, vraiment une victoire référence.
Ouais, ouais, non, franchement, c'est vrai que bon, talent, ça a été un peu, était un peu diminué, mais malgré tout, Mulhouse, belle victoire. Sans Rodion Alimov, sans Wen Yuzhang, mais franchement, belle victoire. À voir Yasmine, leur nouvelle joueuse indonésienne, ce que ça va donner. Là, c'est elle qui perd ses deux matchs sur cette rencontre. À voir ce que ça va, voilà, ce que ça va donner, ce simple dame 2 côté Mulhouse. La dernière rencontre, même score pour Fos contre le VGA Stella Saint-Maur, 6-2. Thomas Junior Popov était absent, mais son frère, lui, était revenu d'Allemagne. Donc Christo a battu Eno Garoua, le simple homme 1. Ils ont gagné également le simple homme 2, Ivan Atanasov, qui a battu Yanis Godin, 11-21, 21-17, 21-12. Et là, c'était le premier match de la recrue canadienne Talia Inge. Elle a battu Anna Tatranova assez facilement, 21-14. 21-9, tandis que Zera Erdem, elle a déclaré forfait après un set contre Bénédicte Silassène. Pour les doubles, Foss a pris le double dame et les deux mixtes, tandis que Stella Saint-Maur a pris le double homme, la paire Maël Catouin-Yanis Godin. Ils ont battu Atasanov, Anthony Nelson, 21-18, 24-22. Sinon, les trois autres doubles ont été très très facilement remportés par Foss sur mer. Benoît, une équipe de Fos-sur-Mer ils ont quand même un bon réservoir là, parce que même sans Neslihan Nigit, même sans Thomas Junior Popov, même sans Ruben Hilleux, franchement ils ont beaucoup de profondeur d'effectifs. Et là, contre une équipe du VGA qui était un petit peu légère pour affronter cette équipe de Fos.
Ouais, après on le savait et on l'a souligné en début de saison, ils étaient déjà assez compétitifs, mais quand t'enlevais les frères Popov, c'était parfois plus compliqué quand même, même s'ils étaient souvent là. Là, on a bien vu qu'ils se sont renforcés de manière générale, et la présence de Talia Enge, pour moi, de manière générale, et maintenant, en fait, même quand les Popov seront pas là, tu vas te dire, enfin, à part Chambly dans l'autre poule, tu vois, même Mulhouse, les jours où il n'y avait pas les Popov, tu sais que tu vas pas passer un bon moment quand même, ça va pas être facile, quoi.
Exactement. Benoît, le classement. On a donc Fos sur mer seul en tête avec 14 points, devant Mulhouse 11 points, Stella Saint-Maur, pardon, le VGA 9 points, ensuite on a Talence et Aix-en-Provence à 8 points, et R sur la liste à 5 points. Benoît, R sur la liste qui a fait un super début de saison, maintenant qui est un peu à la traîne, là ça va être serré pour le maintien dans cette poule.
Ça va être serré pour le maintien. Je suis curieux de voir vraiment ce qui va se passer. Est-ce que je te pose la question et je la pose un peu à tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment sûr que ça va se jouer entre R, X et Talence qui sont 4, 5, 6? Est-ce que le VGA qui a 9 points est vraiment sauvé? Pour moi, t'as vraiment aucune certitude à part Mulhouse et Foss qui sont, à mon sens, au-dessus de la mêlée. Pour moi, c'est très très loin d'être... Enfin, même quand t'es le VGA 3ème, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est très très loin d'être fini.
Ah oui, non, pour moi, entre les 4, ça va être très serré, ça va être intéressant, mais ça revient aussi à ce qu'on disait la dernière fois sur un peu le déséquilibre des deux poules. Hein. Ah, je pense que là, il y a du niveau, et quand tu vois les effectifs, tu te dis, c'est dur de trouver une équipe à faire descendre, même si c'est toujours compliqué.
Alors que je pourrais t'en donner deux dans l'autre, mais...
Mais je veux pas que tu me les donnes, Benoît. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur le top 12? Je précise avant que la prochaine journée, elle arrive vite, hein, ce sera le 25 novembre.
Non, j'allais te lancer sur la prochaine journée, t'as tout dit.
Je précisais peut-être que par exemple dans cette poule, il y aura un Fos Mulhouse, Benoît, que j'ai assez hâte de voir.
Oh, tout pareil. On a forcément envie de les voir. L'aller comme le retour, c'est vraiment les deux ovnis de cette poule. Ça promet. Enfin, on rêve de deux effectifs complets, clairement.
Ouais. Parce que franchement, il peut y avoir des gros matchs. Alors que voilà, dans l'autre poule, Arras qui doit prendre des points face à Marom, Strasbourg RCF, assez curieux de voir ce que ça va donner, et Cholet qui reçoit Chambly. Allez, on passe à la troisième partie de cet épisode, le Halo Open.
I'm the bad guy.
Take that.
Et oui Benoît, puisque s'il y avait pas mal d'absents dans cette journée de top 12, c'est qu'il y avait un tournoi en Allemagne. Alors on ne va pas faire un débrief complet de chaque tableau comme on peut le faire pour d'habitude, puisque ça reste un super 300. Mais par contre, il y a des Français qui se sont illustrés. On va se focaliser là-dessus. Benoît, on va commencer par le simple homme. On avait deux Français en demi-finale. On va commencer par Alex Lagnier, qui a perdu contre... Bon non, on va d'abord faire son parcours, excusez-moi. Il a battu le Brésilien Jonathan Mathias, puis il a battu la tête de série 3 Nge Kalong, 21-13 au 3ème, puis Julien Caragui, le Belge que j'ai mentionné tout à l'heure en top 12, 22-20 au 3ème, 14-21, 23-21, 22-20, gros match, avant de perdre contre Xu Tianchen, futur vainqueur, 21-19, 19-21, 21-15. Benoît, je pense que on va se répéter dans cet épisode, mais super parcours d'Alex Lagnier. Match référence dans des styles différents, j'ai l'impression, contre Nge Kalong et contre Julien Caragui, où là il a dû vraiment, vraiment batailler. Et même s'il perd contre Xu Tianchen, je pense pas mal de positifs à retenir de ce match.
Ah, carrément, je veux dire, il fait une demi en 300. Je suis même sûr que c'est son meilleur résultat en 300. Tu ne peux pas retenir autre chose que du positif. Tu peux être frustré un tout petit peu parce que il a été tellement bon contre Xu Tianchen pendant si longtemps que tu peux regretter que ça le fasse pas, mais il bat Nge Kalong, c'est une de ses plus belles victoires en carrière, peut-être la plus belle. C'est pas facile de battre un vétéran comme Nge Kalong. Il bat un Julien Caragui qui est en forme. Honnêtement, la semaine d'Alex Lagnier, on était frustrés, toi et moi, en se disant on aurait aimé que les demi-finales soient inversées, les adversaires. Mais en vrai, il fait une demi-finale de Super 300, on se le disait, mais... Allez, avoir un Français sur un Super 300 en plusieurs, un samedi et tout, on est trop content. Et puis le niveau de jeu est là, quoi.
Ouais, c'est ça, il y a énormément de positifs à retenir. C'est vrai que c'est un peu frustrant la fin, puisqu'il mène 15-13 au 3ème contre Xu Tianchen, et il perd 21-15. Mais bon, Xu Tianchen, c'est un roublard, et même s'il n'est pas dans la meilleure passe de sa carrière, bah déjà, il va encore chercher un 300. Et, franchement, ça reste un super joueur. Donc le fait que tu vois comment il célèbre quand il bat Alex Lagnier, tu sens que Xu Tianchen, il a cru un moment prendre la porte, et c'est à mettre au crédit du français, ouais, qui fait vraiment une super semaine très très prometteuse. Oui, tu as mentionné l'autre demi-finale. Il y avait Thomas Junior Popov qui a d'abord battu Kai Schaefer. Lui était tête de série 5. Kai Schaefer, Kalle Koljonen et Jan Lauda. Benoît, peut-être, je sens que tu n'auras pas grand-chose à me dire face au match face à Schaefer et Koljonen. En plus, Koljonen, il n'y a eu qu'un set avant que le Finlandais déclare forfait. Tu auras peut-être plus quelque chose à me dire sur ce match contre Lauda. Très, très, très tendu. 21-14, 17-21, 26-24 pour le français. Alors, celui-là, il a enflammé le Discord. Je pense que c'est un des matchs qui a le plus fait parler depuis qu'on a créé ce serveur, et j'imagine que toi aussi tu auras quelque chose à m'en dire.
Quelque chose à t'en dire, alors au moins sur la qualité de jeu de Tommy, parce que vraiment Yann Luda, alors oui, il avait poutré Nge Tseyong sans respect la veille, mais pour moi ça faisait pas de Yann Luda un meilleur joueur que Nge Tseyong, hein, quand on remette les choses à leur place. Non. Très clairement
Nge Tseyong,
c'est un vrai
qui
joueur.
A pris 10 et 7 et qui avait envie de rentrer chez lui après la tournée européenne un peu longue.
Vas-y, j'aurais pu mettre autant de points, surtout autant d'envie sur le terrain, quoi. Non, en vrai, Yann Luda, c'est quand même un joueur qui, en Europe, s'est imposé ces dernières années comme un vrai faire-valoir, très clairement. Et là, il a été vraiment très bon toute la semaine. Il a vendu chèrement sa peau. Moi, j'ai vraiment aimé l'attitude de Tommy Popov sur les volants de match à sauver. Vraiment en mode patron, quoi. Ce Tommy Popov là.
Parce que la pression restait sur lui, Benoît. Il a quand même 25 places d'avant au ranking. Avec un tableau comme ça, ça aurait été une contre-perf. On n'en parlerait pas comme ça s'il avait perdu ce match.
Non, pour moi, ça aurait été une contre-perf qu'il perde ce match. C'est pas, je trouve, on aurait pu se cacher derrière, oui, Yann Luda, il fait une bonne semaine. Maintenant, Tommy Popov, c'est pas du genre à se cacher derrière ça. Je pense pas qu'il aurait été satisfait de perdre contre un mec qui fait une bonne semaine.
Benoît, un match notamment tendu, peut-être tu voulais revenir là-dessus.
Ouais. Bah, je voulais revenir là-dessus, oui et non. Je pense que, enfin, je peux. Je sais que beaucoup ont critiqué l'attitude du papa Popov. Je pense que toi et moi, on la cautionne pas. C'est bien qu'il y ait du caractère.
Non, peut-être expliquer parfois. Ce qu'il a fait, peut-être expliquer ce qu'il a fait, peut-être pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le match, Benoît.
Expliquer ce qu'il a fait, ça démarre. C'est moi qui ai un trou. Ça démarre sur le volant out où il râle, c'est ça? Ou c'est pas du
c'est
tout ça,
ça ouais. Et il a eu des mots ouais. pour l'adversaire de son fils aussi, surtout.
Je me souviens même plus où ça avait démarré, tu vois.
Oui, en plus, ce qui est assez dingue, c'est que il coachait le match de Christo et que il arrive en cours de match et que voilà, il a ajouté à la tension, on va dire, et le démo pour son adversaire. Et il y a eu explication de texte entre les deux joueurs aussi à la fin, entre Loda et Tommy Popov aussi. Hein.
Ouais, oui, c'est vrai. En fait, il y avait eu tellement, enfin, ça a tellement décollé que je me souvenais plus. Je n'ai plus exactement le contexte. Merci. Moi je trouve que c'est un peu trop, de la même façon que j'avais reproché à Navika son fuck yourself sur un match d'Alex Lagnier au premier tour d'un vulgaire tournoi il y a quelques mois, et c'est d'ailleurs ce qui a été reproché de manière générale sur le Discord. C'est bien qu'on ait des mecs de caractère, maintenant ce serait aussi bien qu'on sache dire à Thomas Popov senior, le père, que ce soit la Fédé ou la BWF, à un moment donné je pense qu'il faut aussi savoir les remettre en place et leur dire maintenant entraîneur, reste à ta place. Il y a des moments où il faut savoir fermer sa bouche. Je pense que là c'était le cas, il a dépassé les bornes, ça mérite une amende. Alors on va peut-être me dire ouais c'est bien et tout, non, il y a on veut pas d'un sport aseptisé, je pense, toi comme moi, mais il y a des limites à pas dépasser, et je pense que là on n'était pas à la frontière, elles ont été dépassées.
Oui, surtout que au-delà de la règle, je suis pas sûr que ce soit en plus très très productif. Il y a déjà énormément de tensions sur le terrain. Je pense que ton rôle c'est plutôt de l'apaiser plutôt que d'en
j'aime
rajouter.
J'aime pas trop ça, ouais. Je suis pas voilà. Hyper fan de l'attitude qu'il a eue et qu'il a pu déjà avoir par le passé. C'est pas la première fois.
Exactement. Thomas Junior Popov qui s'incline ensuite 21-17, 21-12 contre Lee Chuck Yung Kongé. Benoît, toi, je sais que tu avais un peu plus d'espoir que moi quant aux chances de victoire du Français. Ils étaient à un partout aux dernières confrontations. Et pourtant, c'est bien parti hein, avec le Français qui menait 11-9, je crois, à la pause et qui a fait une partie du premier set en tête. Malheureusement, il se fait reprendre à la fin et le deuxième set, il n'a pas trop existé. C'est un retour sur terre un peu difficile pour Thomas Junior Popov contre un profil de joueur, je trouve, qui ne lui convient pas trop.
Ouais, qui ne lui convient pas trop, mais j'ai toujours plus d'espoir avec Lee Chuck Yew que Lo Kin Yew, dans le sens où Lee Chuck Yew, on ne sait pas trop comment il va aborder les matchs, tu vois.
Ouais. Très irrégulier, même au sein d'un match, voilà. Très irrégulier.
C'est plus dans ce sens-là que j'avais de l'espoir. Je me dis, Tommy, c'est quand même un mec hyper régulier. Il passe rarement à côté de tout un match, tu vois. Et je me disais, là, mais c'est vrai que dans le profil de joueur, je te rejoins totalement. Après, j'y croyais, voilà, pour les raisons que je viens de donner. Maintenant, quand Lee Chuck Yew joue à ce niveau-là, et même ce qu'on avait vu aux IFB la semaine dernière, quand il perd contre Naraoka, il est quand même chiant à jouer. Et quand il est à ce niveau-là, il est quasi top 10 mondial, quoi. Le problème, c'est qu'il joue clairement pas toutes les semaines comme ça.
Exactement. Mais on l'a bien vu en finale contre Xu Tianchen, où il s'effondre à la fin. Il a joué par intermittence encore.
Ouais.
Encore des Français plus bas dans le tableau. Arnaud Merclé qui bat Pablo Habian et Christo Popov qui bat Joran Quickel très facilement les deux. Ensuite, ils s'affrontent. On attendait un match un peu fou. Malheureusement, Benoît, il n'y en a pas eu du tout. Christo Popov qui s'impose 21-12, 21-14. On attendait mieux de ce match, c'est clair.
Oh bah, je pense quand on en parlait tous les deux en direct, on était très très déçus de la performance d'Arnaud Merclé. En fait, il n'y a pas eu match. Alors que pour moi, le score reflète pas l'écart de niveau qu'il peut y avoir entre les deux, ou qu'il peut ne pas y avoir d'ailleurs. Enfin, j'ai du mal à l'expliquer. Il n'est jamais vraiment rentré dans son match, Arnaud Merclé. Est-ce qu'il était très tendu à l'idée de jouer ce match? En tout cas, Christo Popov ne l'a pas pris à la légère. Ça, c'est clair. Et c'est tout à son honneur. Mais c'est nous, on avait envie de voir une vraie baston, quoi. Sur le terrain, en tout cas, dans les règles. Donc, on était quand même déçus, ouais.
et Christo Popov qui a également perdu contre Li Chuqiu, qui a donc battu les deux frères en deux jours, 17-21, 21-16, 21-11. Un profil peut-être qui à lui correspondait un peu mieux, mais sur la durée, il a eu du mal, comme c'est assez souvent le cas pour Christo Popov sur ce genre de match. Dans la durée, c'est souvent compliqué.
Ouais, et c'est frustrant. Je serais curieux d'avoir votre avis et même le sien en vrai, parce que en fait, tu as l'impression qu'il y a une difficulté qui s'ajoute quand il est en quart de finale, c'est cette capacité à tenir physiquement. Tu vois bien que dans le niveau de jeu, il a le niveau, il a tout pour taper Li Chuqiu en vrai, plus que son frère peut-être sur un profil de joueur comme ça. Mais tu sens qu'il y a une barrière qui s'ajoute à lui, en tout cas plus importante qu'elle ne s'ajoute aux autres. C'est assez frustrant, on sait que ça va être plus dur pour lui que pour les autres en quart de finale d'un gros tournoi comme ça.
Je suis totalement d'accord. Et le dernier français de ce tableau, c'était Lucas Clairvaux, qui lui était tout en haut. Il a battu Peñalver en 3-7, 21-7 au troisième. Et lui aussi a perdu contre Xu Tianchen. Donc les deux finalistes ont fait du mal à nos Français. 22-20, 21-17, Benoît, Lucas Clairvaux, clairement pas ridicule face à un joueur de la trempe de Xu Tianchen. Il a pas manqué grand-chose finalement, mais il manque quand même quelque chose.
Ouais, c'est ce que je te disais quand je regardais le match. Il est devant tout le temps dans ce premier set, Lucas Clairvaux. Et sur la fin, ça fait, je crois qu'il y a 18 partout, un truc comme ça, et ça fait 20-18 Xu Tianchen. En fait, c'est frustrant parce que tout le monde, je pense, cette semaine s'est dit Xu Tianchen, on peut le taper. Tu regardes les scores, en vrai, tout le monde, à
personne
un moment, s'est dit. Non, mais c'est ça. Tout le monde s'est dit on peut le taper et personne ne l'a tapé. Maintenant, Lucas Clairvaux, le niveau de jeu produit, il sort de qualif, il bat Peñalver. Franchement, tu fais un deuxième tour en 300, Lucas Clairvaux. Pour moi, la semaine, elle est réussie. Oui, tu peux avoir une frustration, mais en vrai, très content de le retrouver à ce niveau-là.
Voilà. Et donc, Xu Tianchen, qui mine de rien, va chercher son quatrième ILO Open, puisqu'il avait fait tripler 2012, 2013, 2014.
Ouais.
Et donc là, nouveau titre pour lui. Il n'y avait pas besoin d'être... d'être sorcier pour voir que ça lui tenait à cœur dans une saison assez galère pour lui. Et ouais. Donc Thomas Junior Popov, qu'il avait gagné en 2020, là perd en demi. En simple dame, Benoît, belle perf de Chichoufei, qui fait un quart qu'on voyait plus beaucoup jouer ces derniers temps et qu'on voyait plus gagner, qu'il a battu facilement Amalie Schulz d'abord, puis Payupo, tête de série 8, 10 et 11 pour la danoise et 17 et 13 pour la taïwanaise. Derrière, elle perd 11 et 14 contre Zhang Beiwen, tête de série 2 et future gagnante du tournoi. Benoît, même si il y a défaite assez sèche contre Zhang Beiwen, mais déjà voir Chichoufei revenir et mettre quand même une belle victoire facile contre Payupo, qui est 27e mondial, ça, on va essayer de pas s'emballer, mais ça donne quand même de l'espoir, et quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de la revoir gagner des matchs.
On peut pas avoir un autre discours que celui que tu viens d'avoir, je pense. Ça fait tellement, enfin, j'ai dit des trucs que je répéterai pas quand on en a parlé par rapport aux autres joueuses françaises, mais Chichoufei, qui est 86e actuellement à la race pour aller au JO, alors qu'il était, parce qu'un quart en Super 300, ça va changer pas mal de choses, mais vas-y, quand tu vois le niveau qu'elle a eu contre Payupo et tout, enfin, c'est tellement... je te jure, rien qu'en parler, ça me frustre, parce que je vois à quel niveau elle peut jouer, je vois ce qu'elle est capable de produire. En vrai, elle est à son niveau et presque, j'ai envie de te dire, elle a jamais eu des tirages très favorables sur ces tournois-là. Là, Payupo, c'est quand même assez, enfin, on va dire abordable, et elle a saisi sa chance de ouf.
Oui, elle a fait plus qu'aborder, là, elle a surclassé sur ces deux matchs. Hein.
Ah ouais, puis le niveau de jeu, putain, j'espère tellement qu'elle va pouvoir enchaîner un petit peu.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Voilà, je suis hyper enthousiaste, mais enfin... Je pense que toi comme moi, on se dit que c'est elle qui doit aller à Paris. Si on juge au niveau de jeu, au meilleur niveau de jeu de la joueuse, ce qu'on voit là, oui, Chichoufei, elle doit aller à Paris si elle est sur deux jambes.
Voilà, Léonie Sué, elle a eu moins de chance au tirage puisqu'elle a pris Zhang Beiwen dès le premier tour. Elle a perdu 21-18, 21-12. Dommage qu'elle n'ait pas pu un peu plus montrer dans ce tournoi. tandis que Rosie Pancassari a perdu 21-13, 21-15, donc contre la même Amalie Schulz, mais en qualif cette fois. Donc voilà, j'ai dit Zhang Beiwen a gagné ce tableau contre Lin Kerfeld, qui elle était en haut et qui a bénéficié de l'absence de tête de série 1 en partie. Hein. La belle semaine aussi, on l'aime toujours dans ce podcast, on aime en parler de Kirsty Gilmore, qui a notamment battu Aya Aori, qui était en demi la semaine dernière, ça peut peut-être jouer aussi, mais qui a finalement perdu contre Kerfeld en demi. Dans les autres tableaux, bah, on va reparler du double dame, puisque en ce moment on parle beaucoup de double dame, souvent grâce au même, hein, grâce à Margot Lambert et Anne Tran, et bah là ça a encore été le cas. J'allais dire cette fois pas d'exploit majeur, alors on verra, elles ont battu trois paires européennes d'affilée, Anglaises Tolman Van Wen, ça a été compliqué, peut-être plus que ce que ça aurait dû, 22-20, 21-19, et ensuite est venu un match qu'avec Benoît on appelait de nos voeux la semaine dernière, je sais plus si on l'avait dit dans un direct, dans le podcast, ou si on l'avait dit juste en parlant à deux, on s'était dit on est curieux de voir ce que ça donne face aux Stoeva qui sont clairement pas très bonnes en ce moment, pour voir un peu ce que ça donne la hiérarchie au niveau européen. Là on a vu les Françaises qui leur ont mis 15 et 15, victoire où il n'y avait rien à dire, et match plus compliqué ensuite contre une autre bonne paire européenne, Yile Zainen, les Hollandaises, mais les Françaises après avoir lâché le premier set ont, je trouve, été très costauds sur les deux autres, donc 19-21, 21-17, 21-16. Leur parcours s'arrête finalement en demi contre les futures finalistes Rayu Ramananti, 21-12, 21-15, où là voilà, s'il y avait une classe d'écart. Benoît, pas d'exploit majeur comme la semaine dernière où elles ont battu notamment Lee et Shin, les Coréennes, mais c'est aussi ça qu'on veut voir de la part de Lambert Tran, c'est de la solidité et de gagner les matchs quand t'es favori. Et là, c'était le cas. J'estime, moi, qu'elles étaient favorites face aux Stoeva au vu de la forme récente.
Oui, tu peux l'estimer. Maintenant, c'était pas un match gagné d'avance. En fait, j'ai envie de dire plein de trucs. Je me rends compte que j'ai dans mes petites notes, j'ai plein de trucs. Elles étaient favorites, mais je sais plus. On nous a demandé la stat sur le Discord. Il y avait 32-1 jusque-là pour les Stoeva face à des paires françaises. Et c'était en train qu'il avait battu, je sais plus, en 2014 ou un truc comme ça. Enfin, c'est quand même un match jamais facile à aborder malgré le niveau des Stoeva. Je suis très content de ça. Globalement, leur tournée européenne, c'est masterclass. Je pense que c'est quoi? C'est deux quarts de finale en Finlande, en France, une demi en Allemagne. Bon, une défaite au premier tour au Danemark, mais niveau de confiance, niveau de jeu, niveau points, probablement niveau price money aussi, mais c'est pas vraiment notre sujet à nous.
C'est important pour elle.
ouais, non, mais voilà. Enfin, je veux dire, là, après cette tournée européenne-là, c'est ce qu'on attendait tellement depuis des mois, en fait, que vraiment elle capitalise, parce qu'on voyait qu'il y avait du mieux et tout. Là, vraiment, tu fais une tournée européenne où tu peux pas vraiment faire mieux, presque, j'ai envie de te dire.
Non, franchement, bilan archi positif. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas grand chose à rajouter parce que je trouve que t'as tout dit. Ça fait très plaisir après un tournoi français réussi. Là, elles ont eu pas mal de matchs pièges, hein, notamment le tout premier contre les Anglaises. Et c'était pas facile forcément de se remettre dedans. Et ça fait très plaisir de voir qu'elles y sont retournées, qu'elles ont été solides quand elles étaient favorites. Et je suis d'accord avec toi. Même les Stoeva, pas au mieux de leur forme, ça reste les Stoeva. Tu l'as dit aussi, on n'a pas eu la chance de les battre tant que ça en France. Donc très 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 content, ouais.
Et si
voilà,
tournoi remporté
par les chinoises Zhang Zheng, qui ont notamment battu Liu Tan en demi, qui avait gagné les IFP la semaine d'avant. Pardon, excuse-moi, t'allais dire quoi?
J'espère que c'est pas grave la blessure de Rayu qui s'est un peu salement tordu une cheville sur un match où elle vient au filet un peu et elle prend le filet. La cheville tourne un peu, j'espère que c'est pas grave. A priori, elle a l'air de marcher en boitillant, mais voilà, on espère que c'est pas trop grave avant la tournée asiatique. Et c'était sur les Stoeva, je voulais faire un petit focus parce qu'en fait, on en parle beaucoup, mais on regarde même plus leur match, on va pas se mytho. On a vu, je pense, tous les deux, en fait, il n'y a plus rien. Il y a une absence totale de confiance, elles ne produisent plus rien. Elles ont passé leur match contre Margot et Anne à défendre. Vraiment, je veux dire, c'était tellement pas les Stoeva, elles ont tellement d'autres qualités, tu sens qu'elles sont au fond du sac, et j'ai un peu envie de dire que je suis heureux que Margot Lambert et Anne Tran aient mis un coup de marteau sur le sac qui est en train de couler, parce qu'en vrai, il y aura probablement que deux places pour aller à Paris en double dame en Europe. Aujourd'hui, c'est pour Fogarty Gessen et Lambertran. T'as 10 000 points d'avance sur les Stoeva, probablement un peu plus mardi. Bah, j'ai envie de dire que ça fait de la peine, mais en même temps, je préfère voir Margot Lambert et Antran à Paris, quoi.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est oui, elles saisissent leur chance et on espère que les Françaises vont rester sur la même ouais. dynamique au vu des jeux. Voilà. Alors pour les autres tableaux pour le mixte, il n'y avait pas de paire française engagée, remportée par Tang Tse, qui font déjà une belle semaine, qui font finale aux IFB et là qui gagnent, donc pas facile non plus d'enchaîner. Ils sont en forme en ce moment. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de ce tableau de mixte où ils ont battu en finale Kusha Argento, Kusuma Wati, qui sont aussi un peu mieux en ce moment, mais voilà, tableau déserté par les grosses paires globalement.
Ouais, globalement déserté. Je fais encore râler, mais Christian Saint-Boyeux qui vont loin. On va pas se mytho, ça fait pas très plaisir encore une fois. Alors si, ça fait plaisir pour eux. Ça me fait moins plaisir pour Tom et Delphine. Mais voilà, au niveau de Christian Saint-Boyeux, force est de constater qu'il est très bon en ce moment. Et pour Tang Tse, on disait un peu, ouais, je me souviens dans l'épisode des IFB, on disait, ouais, Tang Tse, on sait pas trop, c'est pas toujours ouf. Là, ils font à Hong Kong, ils font finale à Paris, c'est quand même deux tournois qui étaient proches en termes de calendrier. Ils gagnent le Hilo, c'était leur premier titre depuis 4 ans sur le circuit. Écoute, un peu sorti du bois, mais ils ont retrouvé un vrai niveau, même s'ils ont profité un peu des absences. Mais ouais, assez surprenant de les revoir jouer là. La qualif olympique les a réveillés visiblement.
Le bon moment finalement.
Ah ouais ouais. Ah bah écoute, ils vont pas se plaindre, je pense.
Exactement. Pour le double homme, je l'ai gardé pour la fin parce que souvent le double homme, c'est le tableau où quand on se focus sur les Français, on n'a pas trop envie d'en parler.
Est-ce que c'est encore le cas, Ewan?
Oui. Oui, mais en plus on était sûr d'avoir une paire au deuxième tour, puisque Adam Rossi ont joué contre les Popov au premier tour.
Yes.
Et ben voilà, pour que les Popov regagnent un match sur le circuit, il fallait jouer les Français 16-21, 21-16, 21-16. Derrière, ils nous font un match ni indigent ni très bon contre Liu Hu, ils perdent 17-15. Voilà, Benoît, un mot sur ce match entre Français. Un peu dommage peut-être de les voir s'affronter dès le premier tour quand même.
Ouais, après arrête d'employer des mots difficiles le dimanche à 18h quand on tourne, 19h même, parce que indigent, moi j'ai presque besoin que tu me l'expliques, donc c'est un peu relou.
Alors Benoît, c'était pas trop nul mais pas trop bien, t'es d'accord?
Ok, ouais. Non mais c'est bien, je pense que t'as cherché sur Synonymo match Popov double homme et du coup t'as trouvé des trucs pour changer d'habitude.
C'est un peu ça, je suis obligé de chercher des mots pour contourner un peu.
En vrai, c'était, pour répondre à ta question, c'était un bon match, ce double homme entre Français. J'aurais pas aimé voir Adam Rossi, parce que c'est pas vrai. Enfin, j'aurais pas aimé voir une paire plus que l'autre. Mais voir ce qu'il pouvait donner contre une grosse paire, parce que les Popov, on sait. Mais une vraie paire de double, en tout cas avec des joueurs plutôt profil double, j'aurais aimé voir ce que ça pouvait donner. Voilà. Mais j'avais pas de prétention ni pour l'un ni pour l'autre contre Liu, ouais, très clairement, qu'on soit d'accord.
Oui, moi aussi, je pense que les deux se seraient fait balader. Puis on a eu un petit avant-goût de ce qui nous attend au qualif pour les championnats d'Europe qui arrive bientôt, puisque ce sera nos deux paires de double hommes qui vont jouer, je pense.
Oui, monsieur.
On verra s'ils font jouer les pop-offs. La barre corvée en ce moment, c'est triste. Hein. Ils perdent au premier tour aussi contre Sondergaard Toft, 21-19, 16-21, 21-19. Tiens, Benoît, avant que tu parles de ce match, est-ce que ce serait pas temps que je lance notre nouveau jingle?
Allez, régale-nous, parce que là.
Petit jingle, c'est parti.
Et pour toi, beauté, il reste ma spécialité. La sulfateuse.
Quand Victor Axelsen, il a pas envie de jouer, il rentre à la plage.
On n'est pas sur un district dans le département de la Corse, là. Enfin, à un moment donné, ça va deux secondes, quoi. Effectivement, même la Malaisie a amené son équipe 2, puisque c'était Lidia qui était titulaire en simple homme. Ivoni se mène éclaté au sol.
Croyez en vos rêves, mais surtout ne croyez pas en Astrup Rasmussen.
Oui, Benoît, si j'ai mis ce jingle, déjà, c'est parce que j'avais absolument envie de le mettre, vu que je le trouve marrant. Et en plus, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas particulièrement apprécié cette performance de Corvée Labarre.
Oh, pas particulièrement, le mot est faible. Ce sera pas quelque chose de rédigé, hein, qu'on soit très, je suis pas chroniqueur ou quoi que ce soit, mais je pense que ça peut être vite marrant. Ils ont perdu contre les Danish Monsters. L'un venu de Aix-en-Provence, Jesper Toft. L'autre, on sait pas trop, mais en tout cas, ils ont perdu contre la paire monstrueuse de ce tableau, puisqu'ils ont failli faire tomber tout le monde. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est qu'ils ont fait tomber Lucas Corvée et Ronan Labarre. Et ils ont fait tomber... Enfin, ils se sont fait tomber tout seuls, non, en vrai Lucas Corvée et Ronan Labarre.
Oui, puisque, premier set remporté 21-19 par les Danois, les Français qui dominent largement le deuxième, 21-16, et qui font la différence au milieu du troisième, qui se retrouvent à mener 17-13, puis 18-15. Et après, c'est extinction des feux, tu le perds 21-19. Et Benoît, c'est toi qui me l'as dit d'ailleurs par message, c'est d'autant plus frustrant qu'on n'a pas l'habitude de voir Corvée Labarre faire ce genre de petit craquage.
Clairement pas. Après, c'est quand même quelque chose qu'on a souligné ces dernières semaines, voire mois, là, que ça, c'était un peu en demi-teinte parfois sur des matchs comme ça. Alors oui, on va me dire Jesper Toft, Andreas Sundergaard, ils vont jusqu'en demi-finale, ils ont failli taper Liu. Oui, mais c'est pas vraiment mon problème. Ils ont pas fait un grand match contre Corvée Labarre. Moi, c'est ça que je vois. J'ai lu Lucas Corvée, on voit vraiment la différence avec Ronan Labarre, que c'est pas un joueur de double. J'étais pas spécialement d'accord parce que Lucas Corvée a été tellement bon depuis le début de l'association que je trouve que c'est trop facile de juger à l'instant T. Ronan Labarre,
c'est pas dès qu'il a un craquage mental, ouais. On va pas lui ressortir son passé de joueur de simple, quoi.
Tu peux pas tirer sur l'ambulance comme ça. On peut aussi dire que Ronan Labarre a pas su le remettre dedans après un deux coups moyen, tu vois. Enfin, pour moi, c'était trop facile. Donc j'étais d'accord pour dire qu'ils avaient pas fait leur taf, très clairement, que c'est des points qui, on se le disait tous les deux, mais qui vont coûter cher, peut-être une qualif olympique, honnêtement, on verra dans 6 mois, mais c'était une autoroute vers les quarts de finale.
Ouais, je suis d'accord, finalement, Sundergaard Toft, ils font une petite demi, ils tapent notamment la paire chinoise Chen Liu, et effectivement, ils perdent 21-17 au troisième contre Liu Hu, ils ont décidé de sortir la perf de leur vie.
Ouais, ça saoule un peu, mais bon, c'est comme ça.
Voilà. Et Benoît, on va terminer avec une demi-paire française. Yile Mayo qui perd au premier tour contre d'autres Danois. Lundgaard, Vestergaard. Là aussi, assez frustrant. 21-11, 20-22, 21-19. C'est dommage, Benoît, parce que Yile Mayo, mine de rien, c'est une bonne paire. Eux, pour le coup, ils étaient menés dans le troisième. Ils reviennent à 19 partout. Il en manque un peu. Évidemment, on va être moins sévère avec eux au vu du déroulé du match.
Oui.
Et des conditions de la paire. Hein, ils jouaient ensemble depuis 2 mois les cocos, mais c'est un peu dommage parce que finalement c'est pas mal Guy Le Maillot, on l'a déjà dit, hein, mais je redis.
Ouais, non, mais t'as raison, c'est plus que pas mal. On en attend moins aussi dans le sens où c'est triste, mais on sait que c'est pas eux qui vont aller à Paris, qu'ils sont pas dans la lutte, etc., que c'est pas une paire qui a vocation à durer. Maintenant, c'est une paire qui est sympa à voir. Julien Maillot, on en a parlé plus tristement pour son message sur les réseaux sociaux cette semaine concernant la sélection pour les Europes par équipe non mixte, par équipe homme et femme.
Voilà, petit coup de gueule, parce qu'il est pas pris, prévenu qu'il n'était pas pris, donc effectivement
oui.
Et bon, on va pas avoir ce débat maintenant, mais voilà. Et ouais, il sauve là deux volants de match et ça passe pas, dommage. Mais je suis d'accord avec toi, Benoît, c'est d'autant plus frustrant. Enfin, je suis content pour Julien Maillot qu'il s'épanouisse avec Ruben Hilleux, mais c'est d'autant plus frustrant de se dire s'il avait un bon partenaire français, il serait dans la course pour les Jeux et ce serait trop cool, tu vois.
J'ai pas changé d'avis, hein. C'est pas parce que William Villéger est blessé actuellement, mais c'est notre meilleure paire de doubles en France, hein. Et elle ira pas au jeu.
C'est les champions de France déjà, de mémoire.
Mais oui, enfin, je veux dire, mais même c'est les champions de France, oui, mais c'est pour moi c'est notre meilleure paire de doubles si elle pouvait vraiment s'exprimer, quoi, et se dire que notre meilleure paire ira pas au jeu, n'en déplaise au Popov, mais ça fait un peu mal quand même.
Je suis d'accord avec toi, mais bon, on va pas avoir ce débat maintenant, on aura le temps plus tard.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est tout pour ce Halo Open. Benoît, globalement, on a passé une bonne semaine hein, là, avec notamment la semaine, la double demi-finale en simple homme, celle de double dame. Franchement, c'était cool. Hein.
Bah, on se le disait, si on a ce tableau à Orléans, qui est un tableau du même niveau, Super 300, je pense que ni toi ni moi ni les organisateurs vont se plaindre. Donc oui, pour un Super 300, on a vu du bombad, fin de tournée européenne, on ne sait pas. Pas toujours régalé, j'ai envie de dire elle finit quand même sur un bon niveau, donc elle finit sur une bonne note.
Voilà, tu fais bien de positiver, Benoît, t'as raison. Et ben merci en tout cas d'avoir fait cet épisode avec moi.
Merci à toi Ewan comme toujours et merci à vous pour votre écoute.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format, ça fait la 2-3ème fois qu'on le fait où on fait top 12, enfin avec interview plus autre match de top 12 plus tournoi. Nous ça nous permet voilà, de pas devoir faire un deuxième épisode en semaine et puis on aime bien parler de plusieurs sujets dans un seul épisode, donc dites-nous si ça vous plaît. Pour rappel, s'il n'y a qu'un seul des sujets qui vous intéresse, il y a toujours les timecodes en description si vous voulez sauter directement à une des parties. Donc voilà, Benoît l'a dit, ça conclut cette tournée européenne. On va enchaîner direct sur le Korea Masters cette semaine. C'est aussi un 300, donc on ne va pas le débriefer a priori. On vous dira peut-être les scores. Par contre, derrière, il y a le Japan Masters et China Masters qui arrivent. Ça, vous inquiétez pas qu'on va en parler. Puis après, on sera déjà bientôt à la fin de l'année et avec les finals en ligne de mire. La semaine prochaine, petit épisode surprise. Allez, on vous dit pas toujours ce qu'on fait la semaine prochaine, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Portez-vous bien, à la prochaine.
经历着平凡的事。